Maison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
Patrice Chéreau est mort un lundi, le lundi 7 octobre 2013. La nouvelle, pourtant attendue, avait eu à l'époque un effet sidérant. Il n'est pas sûr que cette sidération se soit réellement estompée. Penser à la mort de Chéreau, penser que Chéreau est mort, provoque toujours un temps d'arrêt, comme s'il fallait à chaque fois apprivoiser la perte, refaire le deuil à l'infini. Cela tient à l'empreinte exemplaire laissée sur le théâtre par le metteur en scène, à la puissance de son geste, l'évidence de ses représentations qui s'inscrivaient dans la chair même de la vie. Cela tient aux images qui nous restent de lui, son corps photographié mais qui n'est que mouvement, son regard sombre mais toujours éclairant, ses mots limpides, sa pensée droite. 5 ans après la mort de Patrice Chéreau, l'un de ses comédiens fétiches, préférés, emblématiques, va monter sur la scène de l'Odéon Théâtre de l'Europe pour lire des textes de l'artiste. Pascal Grégory souffle sur les braises pour que le feu ne s'éteigne pas, et il a bien raison. Nous ouvrons avec lui à la page Patrice Chéreau, notre encyclopédie en mouvement du théâtre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue.
Je suis celui qui transmet, je suis celui qui doit aider la compréhension du texte. Je suis celui qui doit rendre limpide ou complexe, ou en tout cas organiser les choses. Et pour les organiser, je n'ai pas d'autre moyen que mes propres sensations, je n'ai pas d'autre moyen que mes propres intuitions, je n'ai pas d'autre moyen que de lire la pièce, comme les acteurs, au filtre, avec le filtre de ma propre vie. Et à un moment donné, je parle de moi. Je parle de moi beaucoup plus qu'on ne le croit, même si je laisse parler l'auteur. À un moment donné, j'essaie de transmettre ce que j'ai compris, moi. Ce que font les acteurs parlent de transmettre les mots de l'auteur en incarnant des personnages, en incarnant des sensibilités, des sensations, des émotions, en allant puiser en eux, ce que je fais moi aussi quand je fais une lecture, en allant puiser là, d'aller chercher le point là où ça a un écho en moi.
1, 2, 3, 4. Don't forget the light.
Bonjour Pascal Grégory.
Bonjour.
Nous venons d'entendre la voix de Patrice Chéreau interviewée en 2009 sur France Culture. Que dit de Patrice Chéreau sa voix, son timbre, son phrasé, la découpe de la phrase? Qu'est-ce que ça raconte de l'homme que vous avez connu et du metteur en scène?
Tout d'abord, j'ai beaucoup aimé quand vous parliez tout à l'heure parce que vous avez dit une phrase, c'est celle-ci, apprivoiser sa perte. Parce qu'on dit évidemment beaucoup faire le deuil. Je trouve d'abord le deuil est un mot très triste, évidemment. Perte, bien sûr, sauf que perte, eh ben, ça peut éventuellement penser qu'on peut retrouver la personne, où qu'elle soit. Donc apprivoiser sa perte, c'est bien, c'était ça. C'était ça vraiment que je voulais faire pour ce spectacle.
Que dit sa voix? Qu'est-ce qu'elle vous dit à vous?
Quand je l'entends, je suis avec lui. Quand j'entends, je repense toutes ces années ensemble, tout ce travail que nous avons fait en commun, énorme travail, la rencontre de Patrice et moi, le lieu où nous nous sommes rencontrés, la première proposition que je lui ai faite alors qu'il ne s'y attendait pas, à propos de Hamlet, qu'il allait monter au Festival d'Avignon. Et je lui ai dit, mais tu n'as pas un rôle pour moi? Non, me répond-il, non. Tous les rôles sont pris. Je lui ai dit, c'est emmerdant. Il me dit, si tu veux, je te propose le roi de comédie, le hallebardier, Fortin Brass, et puis un autre petit, et puis un autre petit rôle. Ça veut dire que sur 5 heures de spectacle, c'est-à-dire 1 heure par acte, pour Hamlet, sur 5 heures de spectacle, j'apparaissais 15 minutes. Et j'avais déjà fait pas mal de trucs. J'avais fait des films. et des pièces et tout ça. Donc j'étais, bon, disons, un petit peu connu, je commençais à être connu.
Vous aviez tourné dans les films d'Éric Rohmer, oui, voilà, vous étiez quand même assez connu,
Téchiné, voilà.
Pascal Grégory.
Et j'ai accepté. Je me suis dit, mais je ne peux pas passer à côté d'un truc pareil, ce n'est pas possible. Alors je ne vous dis pas que j'ai pris un immense plaisir à jouer, en revanche j'ai pris un immense plaisir à jouer dans la cour d'honneur du Festival d'Avignon. Et puis c'est après. Alors il y a l'acteur qui jouait Horatio qui est parti pour la tournée. Et il m'a dit, ben voilà, voilà le rôle d'Horatio. Horatio, c'est un très grand rôle, copain d'Hamlet. Et la conscience d'Hamlet. Et c'est comme ça que ça a réellement commencé notre travail. Donc quand je l'entends, je pense à tout ça, évidemment. Je pense à la dernière fois que je l'ai vu, c'est-à-dire la veille de sa mort. Nous avons dîné ensemble tous les deux, chez lui. Et nous avons beaucoup discuté de littérature, beaucoup discuté de ses projets, même s'il était extrêmement diminué. Et voilà, je pense évidemment à ça. Et au lendemain, quand j'ai appris qu'il était mort le lendemain matin.
Vous parliez d'apprivoiser la perte ou de tenter de l'apprivoiser. Pascal Grégory, est-ce que lui, il apprivoisait la mort ?
Oui, il aimait. Je dis pas qu'il aimait la mort, non. Il la sentait bien. Disons que il était. Oui, c'était très intéressant pour lui, la mort. Il était proche de ça, oui. D'ailleurs, la dernière pièce qu'il ait montée, en l'occurrence avec moi et avec Valéria Bruni-Tedeschi, Bulogier, Rêve d'automne au Théâtre de la Ville, c'était autour de la mort, totalement. C'était la mort de tous ces personnages, ça se passait dans un cimetière. Donc il était concerné, comme il se savait malade en plus, donc comme il disait très justement ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est-à-dire que c'était lui, et c'était une grande partie de lui dans ses mises en scène. Évidemment, cette mise en scène-là était aussi liée à sa perte future, à son départ, à sa mort. Et d'ailleurs, ça a été très dur pour nous de jouer, de répéter.
En sachant que l'échéance approchait.
Oui.
Quand vous racontez cette histoire de rencontre autour de Hamlet, où il vous distribue dans des tout petits rôles avant finalement de vous donner un grand rôle, est-ce que vous avez l'impression qu'à ce moment-là, il vous teste, il essaye de vous voir ce que vous allez être, il vous observe, il vous regarde évoluer sur le plateau avec les autres ?
Parce que d'abord, il ne m'aimait pas comme acteur.
Ah bon ?
Non, parce qu'il n'aimait pas Éric Rohmer. Je lui ai fait aimer Éric Rohmer au fil du temps, mais il n'aimait pas le cinéma d'Éric Rohmer, ce n'était pas son cinéma. Il n'aimait pas le cinéma de la Nouvelle Vague, ce n'était pas son monde. Il a évolué au fil du temps. Et donc, il ne m'aimait pas comme acteur parce que dans les films Rohmer, je disais très vite, mais on ne joue pas, nous sommes nous-mêmes. Or, lui, il aimait les acteurs qui incarnaient quelque chose, qui jouaient, qui proposaient beaucoup de choses. Avec Rohmer, c'était plus simple. C'était nous-mêmes, nous jouions presque nous-mêmes avec un texte admirable de Rohmer. Et donc, il ne m'aimait pas. Donc, c'était, comme vous dites, un test. C'était un test. Tiens, cet acteur qui est quand même un petit peu connu, il me plaît aussi physiquement. Bon, voilà, c'était comme ça. Donc, on va essayer de faire un truc ensemble. On va voir ce que ça va donner.
En préambule de cette lecture que vous allez donc donner demain soir à 20h, sur la scène de l'Odéon, Pascal Grégory, vous avez écrit un texte extrêmement émouvant et qui est à la fois très lumineux et très sombre, et j'aimerais le lire. Patrice Chéreau fait partie de ma vie, il m'a apporté la gravité, appris l'effort au travail, il m'a ouvert les portes des mondes de l'intelligence, des mondes secrets des grands créateurs. Il m'a fait vieillir, m'a appris l'âpreté du métier d'acteur, sa grande dureté, ses douleurs et ses immenses joies. J'ai connu ses tourments, ses désarrois, ses désespérances, ses doutes et ses retours foudroyants à la surface. J'ai connu ses joies, ses immenses succès, ses débordements de tout. On entend dans ces mots que vous écrivez quelque chose qui, au fond, doit être un peu dominé, comme une tempête ou un flot sur lequel il faut arriver quand même à poser des sensations calmes, de la sérénité, mais que ce n'est pas si facile de glisser de la sérénité dans tout ça, Pascal Grégory.
C'est juste pour deux raisons. La première, c'est qu'un acteur est en grande majorité dominé, ou doit être dominé par le metteur en scène. Mais faut-il encore que le metteur en scène soit génial, parce que si c'est un metteur en scène un peu minable, c'est nous alors à ce moment-là qui prenons le dessus et qui dominons. Mais disons que je n'ai jamais détesté être dominé par Patrice Chéreau. Il y a un mot que Patrice aimait dire, c'était le mot soumission. Mais soumission au texte, d'ailleurs j'en parle dans le spectacle que je fais sur lui. On allait aussi vers cette soumission au texte quand on travaillait avec lui, car c'était très précieux pour lui le texte, la façon dont on disait le texte des pièces de théâtre ou des films. C'était même essentiel, puisque c'était la mémoire du personnage, puisque c'était le personnage qui se révélait par la parole. Ça n'a jamais existé au monde, une pièce de théâtre sans texte. Je pense pas. Je pense que si, il y a eu une pièce, je crois, de Botho Strauss ou Peter Handke, où il n'y avait absolument aucun texte, c'était que des personnages écrits, qui étaient écrits de telle manière qu'ils évoluaient. Mmh. Mais c'est rarissime, je crois que ça existait une fois. Bref, le texte, pour Patrice, était essentiel dans la soumission du texte. Ce mot est très important pour connaître Patrice. Alors qu'on ne peut pas trop l'imaginer, parce que c'était un combattant, c'était un guerrier. Et la soumission, on peut imaginer pour un guerrier que ce n'est pas trop son truc. Mmh. Ça l'était sur le texte.
C'est curieux, effectivement, ce que vous dites, Pascal Grégory, parce que soumission au texte, oui, mais enfin, je pense quand même que l'acteur, pour lui, était celui ou celle, il y a aussi les actrices, à partir de quoi tous fabriquaient, il me semble, non ?
Vous avez tout à fait raison, bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut être soumis au texte et puis aussi faire travailler les acteurs dans cette soumission au texte. Il faut pour cela connaître très bien le personnage pour un acteur. À partir du moment où on connaît très bien le personnage, on l'a bien travaillé, que le texte est su par cœur, qu'il n'y a plus aucun doute sur la manière dont nous allons travailler ensemble, à ce moment-là, et ben, alors là, il y a toute liberté, la soumission, elle n'existe plus.
As you, full of hope, when you first took me in.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
She lay, but straight to your bed. There's no cuts to sleep in.
En 1995, Pascal Grégory, il s'est passé quelque chose à la manufacture des œillets. Tous ceux qui ont assisté à la représentation s'en souviennent, c'était la mise en scène de « Dans la solitude des champs de coton » de Bernard-Marie Coltès. Et vous étiez face à Chéreau. Voici ce qu'il disait du travail et de votre place à vous dans ce dispositif.
J'ai essayé surtout de remettre à plat la pièce et de repartir et d'imaginer, d'écouter ce que le texte maintenant de « La solitude des champs de coton » 8 ans, 7 ans après me racontait et comment je l'entendais. Pour ça, je n'ai pas choisi un autre acteur pour faire le dealer. J'ai eu la faiblesse coupable d'avoir envie de rejouer le rôle. Mais j'ai demandé à un autre acteur, à Pascal Grégory, s'il voulait jouer le rôle du client, parce que je pensais qu'il ferait un formidable client, ce qui est le cas. Et ce que j'ai fait aux répétitions, c'est que j'ai écouté. Je ne pouvais pas partir de moi parce que je le connaissais trop, mais j'ai écouté comment Pascal travaillait le texte et comment il rentrait dans un monde qui ne lui était pas familier dès le début. Et comment un acteur absolument nouveau s'emparait des mots et qu'est-ce qu'il entendait. Et de là, j'ai changé mon texte, j'ai changé la façon de faire et j'ai changé la mise en scène et j'ai changé la musique et j'ai essayé de changer tout ce que je pouvais changer, compte tenu que on l'a fait de façon beaucoup plus simple. Quand on joue le soir à Évry à la manufacture des œillets, c'est un hall comme ça, totalement vide, il n'y a plus de décor, il y a juste deux acteurs et un texte. C'est ça que je voulais, c'est ça qui est difficile à jouer, mais c'est ça la grandeur du théâtre, c'est le genre de choses qu'on ne peut faire qu'au théâtre.
Je ne sais pas, vous, Pascal Grégory, quel souvenir vous avez gardé de ce face-à-face, mais pour tous ceux qui l'ont vécu, c'était animal, organique, érotique, d'une rare puissance. Et je me demandais comment vous aviez traversé avec lui, en sa compagnie, contre lui, ce plateau vide de la manufacture des œillets. Je rappelle que les spectateurs vous enserraient de part et d'autre et que vous évoluiez tous les deux au milieu de deux rangées de spectateurs.
Voilà, c'était comme un match de tennis où les gens se font face, l'un et l'autre, et on joue au milieu. Ce texte, Patrice disait que c'était... Enfin, cette mise en scène dans la solitude des champs de coton de Coltès, Patrice disait que c'était l'essence même du théâtre. Deux acteurs, un texte, à nu. Personne, aucun décor, rien, tous les deux. Je jouais le client. Bon, il y a deux personnages, il y a le dealer et le client. Je jouais le client. Forcément, le client, il demande quelque chose. Tout est l'ambiguïté du texte. C'est-à-dire, le dealer propose un truc, mais il attend que le client lui dise ce que le client veut. Or, le client dit, à un moment donné, ben non, proposez-moi d'abord, montrez-moi d'abord ce que vous avez, et à ce moment-là, moi, je vous dirai ce que je veux. Bref, c'est une incompréhension totale entre deux personnages, et dans le fond, c'est comme une sorte d'immense défi à la vie, d'immense drague à la vie. La pièce de Coltès, il l'a écrite à New York. Coltès, il se promenait dans la rue le soir, et il a été abordé par un homme qui lui a dit « Et moi, j'ai tout ce que tu veux. Hein. J'ai du shit, j'ai de l'héro, j'ai de la coke, j'ai tout ce que tu veux. » Et Coltès a compris que l'autre faisait la manche. Et il a écrit cette pièce incroyable là-dessus.
Mais alors, s'il est vrai, comme le disait Patrice Chéron en ouverture de cette émission, que chaque fois qu'il faisait une mise en scène, c'était de lui dont il parlait, alors là, de quoi parlait-il? Parlait-il de lui ou parlait-il de vous deux?
Ah, il parlait de nous deux.
Oui.
Absolument. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, nous vivions ensemble. Donc, il y avait beaucoup de nous là-dedans. Évidemment. Et d'ailleurs, j'étais vraiment un gros imbécile, car quand il m'a proposé la pièce, je lui ai dit « Oh, j'aimerais bien jouer le dealer ». Il m'a regardé comme si j'étais vraiment le dernier des crétins. Il m'a dit « Mais tu n'es pas un dealer, tu es un client dans la vie. Tu es un client dans la vie ». Donc voilà, ça, c'était nous en fait. Bien sûr avec des mots que nous prononcions pas dans la vie, mais c'était nous.
Lorsque vous l'avez rencontré, vous avez tout de suite su qu'il allait vous amener au-delà de vous-même, comme il l'a fait avec beaucoup de comédiens. Oui. Il portait les acteurs au-delà d'eux-mêmes. Oui. Il y avait quelque chose qui excédait chez Patrice Chéron.
Oui. Et j'étais en demande de ça. Comme tous les acteurs qui rêvaient de travailler avec lui. Car j'ai fait beaucoup de films, j'ai fait beaucoup de pièces de théâtre. Je vous assure que c'est peut-être, ils ont été deux dans ma vie de travail, qui réussissait à faire travailler les acteurs parce qu'ils n'avaient pas peur des acteurs. Et ils savaient leur dire des choses, et ils savaient leur dire des choses essentielles par des détours incroyables. Parfois, vous savez, nous sommes bloqués sur un texte, nous sommes bloqués sur une scène, nous n'y arrivons plus. S'il n'y a pas de metteur en scène, on est bloqué, on reste bloqué. S'il y a un metteur en scène qui vous dit des choses, mais qui vous dit pas des choses sur le truc, mais qui vous dit des choses qui va loin, loin, qui prend des détours incroyables et qui revient à l'essentiel, là, on se débloque. C'est absolument comme une médecine, quoi.
Et est-ce qu'il vous autorisait à répondre? Est-ce que vous aviez le droit d'être en conflit, en opposition, d'objecter, de ne pas être d'accord?
Oui, il aimait ça, mais il aimait qu'on lui résiste. Ça voulait pas dire qu'on lui résistait, qu'on avait du mal à lui résister, mais il aimait qu'on lui résiste. D'abord, il disait tout le temps non. Hein. La première chose, par exemple, Patrice, je voudrais plutôt rentrer à gauche qu'à droite, car je le sens. Bon, ça c'est des trucs d'acteur, quoi, je le sens. Et il disait non, immédiatement, non. Et puis on travaillait au fil de l'heure, et puis à un moment donné, il disait, ah bah oui, finalement oui, rentre à droite, c'est bien.
Je voudrais vous faire écouter une autre archive trouvée à l'INA, Pascal Grégory. Je ne sais pas si vous la connaissez, je crois, en tout cas à ma connaissance, c'est la seule que j'ai trouvée, que c'est la plus ancienne trace de Patrice Chéreau sur les antennes de Radio France. Elle date de 1966, il a 22 ans. Retour au tout début, donc, il vient de créer l'affaire de la rue de l'Oursine, et c'est une séquence assez édifiante, je dois dire, mais pas de sa part, plutôt de l'intervieweur.
C'est moi qui mets en scène l'affaire de la rue de l'Oursine. On le monte en comédie musicale.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a adapté très librement une pièce de La Biche, qui porte le titre original de l'affaire de la rue de l'Oursine.
Oui, je la connais, mais vous l'avez adapté. Ça veut dire c'est plus du La Biche.
C'est-à-dire ce n'est plus tout à fait du La Biche.
C'est un peu du Patrice Chéreau.
Voilà, exactement. C'est un peu beaucoup du Patrice Chéreau.
Ah, plus beaucoup de respect des textes, jeunes gens. Hein.
Alors, c'est-à-dire, je pense qu'avec La Biche, je ne sais pas si il aurait été tellement intéressant de monter la pièce telle qu'elle était présentée. Enfin, ce qui nous intéressait surtout, c'était l'histoire qu'elle racontait, c'est-à-dire l'histoire de ces deux petits bourgeois qui sont soupçonnés de meurtre et qui finissent par devenir réellement assassins.
Oui, d'ailleurs, je vois que vous annoncez ça comme une comédie musicale d'après La Biche.
Exactement.
Alors, de qui est la musique?
La musique est d'un membre de la troupe, Jean-Pierre Moulard, qui a écrit une musique originale.
Voilà, on va passer sur le ton très paternaliste du journaliste, hein, laissons ça de côté. Il dit quand même une chose qui est juste. Il dit c'est un peu du Patrice Chéreau. Il a quand même compris ça. Il a quand même saisi ce qui allait être après la marque de Patrice Chéreau. C'est que Patrice Chéreau prend un texte, fait un film de cinéma. Ça ne peut être personne d'autre qui a signé la représentation ou qui a signé le film, Pascal Grégory. Il n'y a pas de confusion possible.
Bah oui, mais oui, c'est ça, il le dit lui-même, qu'il est partout, dans toutes ses œuvres, dans tout son travail, c'est lui-même. Il le dit, c'est sa vie. Il ne vit et ne pense qu'à travers ce travail qu'il fait tout au long de sa vie. Il y a une chose importante quand on parlait de Labiche, c'est que toute sa vie, Patrice a torturé les textes. C'est-à-dire que pour lui, à partir du moment où les grands textes classiques sont publiés, sont édités, donc on peut les trouver dans la version originale écrite par l'auteur. Et puis lui, en revanche, il est tout à fait d'accord pour que les metteurs en scène coupent des choses, torturent le texte, et ainsi de suite. Je me souviens dans Phèdre, quand il avait monté Phèdre,
au Théâtre de l'Odéon, avec Berthier, avec Dominique, avec Éric
moi,
Ruff.
Oui, c'est ça, avec Éric Ruff. Et je jouais Thésée. Eh bien, il a coupé des vers. Et pour des puristes, c'est absolument un scandale. Et en revanche, pour la compréhension, je dirais, pour alléger un peu l'histoire, la psychologie des personnages, il avait effectivement coupé deux vers par-ci, deux vers par-là, deux vers-là. Et un soir, il y avait un type au premier rang qui avait le texte de Racine, qui n'a pas regardé le spectacle, qui était la tête dans le livre de Phèdre, et qui, à un moment donné, quand les deux vers n'ont pas été dits, a levé la tête, et on a senti presque, parce qu'on le regardait, on a senti presque qu'il allait hurler. C'est phénoménal, enfin, de penser qu'on n'a plus le droit de toucher à quelque chose qui est intouchable, pas apparemment. Patrice, lui, non, au contraire, absolument. Quand Simon Stone a monté Les Trois Sœurs à l'Odéon il n'y a pas si longtemps, où il a bouleversé Les Trois Sœurs de Tchekhov, on reconnaissait quand même Les Trois Sœurs de Tchekhov, ça, indéniablement, mais il a tout bouleversé, avec parfois des mots modernes, et ainsi de suite. Et Patrice était très fervent de ce truc.
Comment... C'est une question que je me suis souvent posée devant les spectacles de Patrice Chéreau. Comment amenait-il le comédien et la comédienne à cet état d'érotisation du corps, de libido du corps? Comment vous amenait-il sur cette voie-là, Pascal Grégory?
Je pense que Patrice était d'abord attiré par les corps physiques. Pas seulement les corps des garçons, mais aussi les corps des femmes. Dans l'intimité, c'est magnifique la façon dont il filme le corps des deux, le couple, l'homme et la femme. Il était attiré par la chair, il était attiré par la peau, il était attiré par le sexe. Le sexe et la mort, c'était deux choses très importantes pour lui. Et en fait, il avait raison, parce que ce sont des choses très importantes. Et comme ce n'était pas un intellectuel, c'était quelqu'un d'incroyablement intelligent et d'incroyablement cultivé, mais ce n'était pas du tout un intellectuel comme l'était par exemple Antoine Vitez. Ce n'était pas un théoricien du théâtre. C'était un pur sensuel du théâtre. Et c'était pour lui la chose la plus importante, le corps qui se meut sur le plateau ou sur un plateau de cinéma. C'était comment faire évoluer ces corps pour que la sensualité ressorte. Ces corps qui s'attirent les uns et les autres et qui se déchirent et qui reviennent.
Mais il vous met dans cet état-là quand vous jouez avec Valeria Bruni-Tedeschi dans ce dernier spectacle, le texte de Yon Fosse au Théâtre de la Ville. Vous êtes à ce moment-là dans le désir et la haine aussi de Valeria Bruni-Tedeschi, puisque vous étiez un couple qui se déchire.
On est acteur. Quand on est acteur, on est forcément exhibitionniste. À différents degrés, mais on l'est. Et Patrice, disons, exacerbait cet exhibitionnisme. Et ça ne me dérangeait pas. Absolument pas. S'il m'avait demandé d'être nu, ça ne m'aurait absolument pas dérangé, puisque ça rentrait dans la logique du personnage et de la mise en scène. Donc, toute cette exacerbation sexuelle qui était entre nous deux, puisque c'était un couple qui se retrouvait, tout d'un coup qui avait envie de refaire l'amour, ça marchait, enfin, c'était inévitable. Et puis, je pense à la Reine Margot, quand il a tourné la Reine Margot, tous ces corps qui se déchirent, tous ces corps qu'on voit nus, par exemple, dans le grand massacre à Saint-Barthélemy, tous ces corps nus, ensanglantés, comme absolument un massacre, un génocide. Là, il y a le corps et la mort aussi, et le sang. Il aimait ça.
On a écouté ce qui était sans doute sa première interview à la radio. Je vous propose d'écouter ce que je crois être sa dernière, diffusée en septembre 2013 dans l'émission de Laura Adler, Hors Champ.
Je pense qu'en piquant des colères démesurées, les colères mesurées peuvent être utiles quelquefois, mais les colères démesurées, ça sert à rien, ça ne fait rien avancer. Et non plus, je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est bien d'installer un climat de merde en répétition, qu'on travaille mieux, je ne crois pas. D'abord parce que si je me mets en colère, c'est moi que je fais souffrir le premier. Je suis horriblement malheureux. d'avoir vexé les autres et de ça me pourrit la vie. Donc et puis par nature je suis sûrement plus tolérant et je trouve plus beau quelqu'un qui ne suit pas ce que je lui propose ou qui n'a pas compris ce que je lui proposais, c'est plus intéressant d'essayer de lui faire comprendre. Il y a deux solutions quand on devient plus âgé, hein, où on devient de plus en plus con, où on devient un peu plus intelligent. On ne peut pas choisir. C'est pas vous qui faites le choix consciemment, mais il m'a semblé que la deuxième voie était plus intéressante.
Je ne sais pas vous, Pascal Grégory, mais moi c'est assez souvent en écoutant Patrice Chéreau que j'ai ri. Parce qu'il avait beaucoup d'humour, je trouve. Beaucoup d'ironie, servie par cette lucidité incroyable hein, qu'il a animée de bout en bout.
Il était extrêmement drôle, mais il n'avait aucun sens de l'humour. C'est vrai.
Ça se traduisait comment, ça?
Par exemple, quand ça venait de lui, l'humour. Si l'humour venait d'autres personnes, à moins que ce soit vraiment de la plus immense qualité, ça ne le faisait pas rire. Mais on riait avec lui de ses traits d'humour.
Alors, justement, qu'est-ce que vous allez faire entendre de lui demain soir sur la scène de ce théâtre national qui est l'Odéon Théâtre de
après
l'Europe
sa mort, oui. Après sa mort, disons, voilà, apprivoiser
la perte,
c'était très difficile. Mais je n'étais pas le seul, évidemment, nous sommes quand même pas mal là-dedans. Et un matin, je me réveille, tous les jours, je pensais à lui. Et à chaque fois que je travaillais un rôle pour d'autres films, d'autres pièces. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un matin, je me suis réveillé en me disant « Mais il faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire ? J'en ai marre de penser à lui. J'en ai marre, ça me bouffe la vie. » Et je me suis dit « Bah voilà, je vais entreprendre un spectacle, enfin une lecture. » Et j'ai fait un énorme travail de recherche sur depuis les années où il avait une trentaine d'années, quand il a monté la tétralogie de Wagner à Bayreuth. Ça a été un énorme scandale et un énorme, gigantesque succès après. Eh bien, là, j'ai ramassé, accumulé une grosse somme de travail, une grosse somme de textes qu'il avait écrits. Et j'ai donné tout ça à Louise Trévidy, qui est sa dernière scénariste. Et elle a fait un montage magnifique, je dois dire, très clair, très linéaire, qui lui ressemble. Au-delà de ça, nous avons, Patrice et moi, eu une grande correspondance. Et des lettres et des cartes postales pendant de longues années. Je ne lis pas les lettres les plus intimes, mais je lis quelques lettres très significatives de son esprit et deux lettres intéressantes, notamment un poème qu'il m'avait écrit à propos de dans la Reine Margot dans lequel je jouais le duc d'Anjou, et aussi une longue lettre dure qu'il nous avait envoyée à tous les acteurs après qu'il ait vu une représentation à Genève du Temps et la Chambre de Botto-Strauss. Ça commence un peu de ce genre. Vous étiez content, vous aviez l'air content, ça se passait bien, ça a fait un gros succès. J'ai vu la pièce hier soir. Vous aviez l'air très heureux, vous aviez l'air content. Eh ben, ne le soyez pas, car c'était très mauvais. Et je lis cette longue lettre. Et il explique pourquoi il avait trouvé, lui, ça très mauvais. C'était un énorme succès, hein.
You sure you wanna be with me? I've nothing to give. But lines say this love is best. Or leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest.
On se quitte, Pascal Grégory, avec cette musique que vous connaissez très bien, puisque c'était la musique qui accompagnait hein, la solitude. Dans les champs de coton à la manufacture des œillets. Je rappelle que Ceux qui m'aiment, c'est le titre que vous avez donné à cette lecture des écrits de Patrice Chéreau. C'est demain à l'Odéon à 20h. Je rappelle également la publication aux éditions Actes Sud Collection Le Temps du Théâtre du livre J'y arriverai un jour, ainsi que de la parution aux mêmes éditions du journal de travail de Patrice Chéreau. Vous pouvez et même, vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Inès Duperron, Jordan Fuentes, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent. Bientôt 16h sur France Culture, vous avez rendez-vous avec Aurélie Lunon et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
Now take a walk, take a rest, taste the rest.
of your list. Monopoly improperly kissed. We overcome in 60 seconds with the strength we have together, but for now, emotional ties, they stay severed. When there's trust, there'll be trees, and when we're funk, we'll hear beats. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma. Karma coma, Jamaica aroma.
Jamaica and Roma.